France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Fédérons-nous quand les femmes s'imposent à l'université. Installées dans l'amphithéâtre, nous voici dans un monde particulièrement masculin, riche d'étudiants, costumes sombres, mais année après année, ou plutôt décennie après décennie, voici que des visages féminins apparaissent dans cet amphithéâtre, le fruit d'une lutte de longue haleine, celle des pionnières de l'université.
Si j'ai choisi Polytechnique, c'est à cause des débouchés qu'on a, parce que finalement, on peut faire ce qu'on veut en sortant.
1870, Louise Michel.
1875, pour la première fois, une femme, Madame Bresse, obtient le diplôme de docteur en médecine.
Les hommes sont quand même pas bâtis tout à fait comme les femmes.
1892, Mademoiselle Chauvin prête serment devant la cour d'appel.
Je demande qu'on ne forme pas pour l'avenir des femmes libres penseurs.
Beaucoup de filles qui reçoivent une instruction très poussée ont quelquefois du mal à concilier cette affirmation intellectuelle et la réalisation de leur féminité.
Le cours de l'histoire.
Les femmes sont encore des ovnis. On ne sait pas comment les maîtriser, on ne sait pas comment obtenir leur fidélité.
Marie-Élise Vignadi, bonjour.
Bonjour Xavier Maudit.
Vous êtes aussi un ovni, on ne sait pas comment vous maîtrisez en écho à ce qu'on vient d'entendre. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences de l'éducation, c'est à l'Université catholique de l'Ouest. Et vous êtes l'autrice de l'accès des femmes aux études universitaires, l'engagement de la Fédération internationale des femmes diplômées des universités. C'est une histoire toujours complexe, cette histoire de l'accès à l'université, parce qu'il nous oblige à regarder le système scolaire dans son ensemble. Pour accéder à l'université, il y a le lycée. Comment ça se passe pour les femmes au 19e siècle ?
Alors, pour les femmes au 19e siècle, on n'est pas du tout sur la même logique que pour les garçons, en fait. Puisque, alors que sous Napoléon sont conçus les lycées de garçons, lycées publics d'État et collèges communaux, il faut attendre, en fait, la Troisième République pour voir la même chose se construire pour les femmes. Et en fait, il faut attendre 1880 avec la loi Camissé qui crée les lycées de jeunes filles. Néanmoins, on n'est pas du tout sur le même type d'enseignement que ce qui est fait dans les établissements secondaires de garçons, puisque on n'a pas les mêmes contenus, notamment pas de latin. Donc ça, c'est la grosse différence, pas d'humanité classique qui était quand même l'enseignement de base, le plus important dans les établissements de garçons. Et de fait, dans ces établissements de filles, on ne prépare pas au baccalauréat, mais on prépare un diplôme de fin d'études secondaires qui ne permet pas, du coup, ça rejoint notre thème d'aujourd'hui, d'entrer à l'université.
Ah oui, parce que ça, c'est tout l'enjeu. On parle du latin. Maîtriser le latin, c'est pas simplement pour saisir les allusions dans Astérix et Obélix. Hein. Ça veut dire que les femmes ne bénéficiant pas de l'enseignement du latin ne peuvent pas passer le baccalauréat.
Tout à fait.
C'est ça, enfin,
exactement.
C'est un filtre terrible.
C'est un vrai filtre qui les empêche d'accéder à ce diplôme, qui est le diplôme qui leur permet d'accéder aux études supérieures.
Donc, dans leur lycée à elles, elles ont une formation, mais elles n'ont pas le diplôme final.
Elles ont leur diplôme. Elles ont leur diplôme de fin d'études secondaires, mais qui est un diplôme spécifique pour les femmes, qui n'est pas le même que celui des hommes, puisqu'il faut bien avoir à l'esprit qu'en fait, on ne forme pas aux mêmes rôles sociaux. En fait, on est au 19e siècle vraiment sur cette idéologie des sphères séparées, avec la sphère privée pour les femmes, le foyer, leur rôle de mère et d'épouse, et la sphère publique pour les hommes. Et donc, de fait, on décide de les éduquer séparément, dans des établissements différents, mais aussi avec des contenus différents. Et même si la Troisième République a à cœur d'éduquer les filles, ce qui est quand même une nouveauté, puisque avant cela, c'est quand même plutôt des initiatives privées, et notamment religieuses, qui éduquent les filles. Ben, là, l'enjeu est en fait justement de retirer le poids de l'emprise de l'Église sur l'éducation des filles, plus que de leur offrir une formation intellectuelle qui permette de les émanciper par le travail ensuite.
Oui, parce qu'on évoque régulièrement les lois sous le Second Empire, notamment les lois Duruy sur l'enseignement des filles, mais il faut le comprendre comme des petites filles, c'est l'enseignement primaire, hein, c'est bien ça.
Alors, il y a des cours secondaires qui sont mis en place sous l'enseignement Duruy, qui sont censés être d'un niveau supérieur à l'enseignement primaire, mais c'est un premier pas. Mais c'est pas encore des cours qui sont vraiment complètement homogènes sur l'ensemble du territoire et c'est pas une formation qui conduit à un diplôme. Donc là, Avec le lycée, il y a quand même ce premier diplôme, même si ce n'est pas un diplôme qui permet l'accès à l'université ensuite.
Mais il y a un nom qui surgit toujours dans cette histoire-là, c'est celui de Julie-Victoire Daubier, la première bachelière. Nous étions en 1861, on est toujours sur le Second Empire. Alors là, vous m'expliquez, Marie-Élise Hunyadi, parce que vous nous avez dit clairement qu'il y a un système pour les jeunes filles qui ne conduit pas au baccalauréat, mais nous avons quand même une bachelière. Comment ça se passe?
Alors effectivement, c'est ce qui est un peu paradoxal, c'est que les premières étudiantes arrivent à l'université avant ces lois de la Troisième République, et notamment la loi Camissé de 1880. En fait, ce sont des femmes qui vont avoir la volonté d'entrer à l'université ou d'y avoir leur diplôme, mais qui vont préparer seules leurs examens. C'est le cas de Julie-Victoire Daubier, qui prépare avec son frère, qui est prêtre, qui lui apprend le latin. Enfin, il y a d'autres, finalement, modalités d'apprentissage que l'enseignement qui est donné dans les écoles primaires notamment et dans le secondaire privé pour contourner la barrière du latin puisque c'est la barrière la plus structurante. Et puis progressivement on va voir entrer de plus en plus de femmes et donc de plus en plus de femmes vont vouloir passer le baccalauréat d'abord en candidate libre avant que ça puisse être seulement en 1924, vraiment généralisé dans leurs établissements secondaires.
Voilà, le même baccalauréat pour les filles et les garçons en 1924, qu'est-ce que c'est tard? Parce que le baccalauréat, il faut le rappeler, c'est le premier grade de l'université. Alors les choses ont changé depuis, mais symboliquement d'ailleurs c'est très fort que cette chose-là ait changé, mais passer le baccalauréat, c'est mettre un pied à l'université. Donc, rendre complexe l'accès au baccalauréat pour les jeunes filles, c'est leur interdire l'université, sachant que rien ne les empêche d'aller à l'université.
Exactement. Et c'est vrai que les femmes vont en fait s'engouffrer dans les non-dits législatifs, puisque rien ne leur interdit en fait de pouvoir passer le baccalauréat et d'entrer en tant qu'étudiante sur les bancs des facultés, c'est plutôt l'usage qui fait qu'en fait, comme c'est pas conçu pour elles et qu'on n'imagine pas qu'elles vont ensuite vouloir embrasser les professions intellectuelles, puisque c'est pas leur place en fait, hein, leur place est au foyer, finalement, ce sont ces non-dits qui vont permettre aux étudiantes d'entrer dans les failles du système.
Avec ici un regard porté sur ces jeunes filles, alors qui rêvent du baccalauréat, qui rêvent éventuellement de l'université, par un monsieur important, c'est Monseigneur Dupanloup, l'évêque d'Orléans. Nous sommes en 1867.
Les jeunes filles sont élevées pour la vie privée, dans la vie privée. Je demande qu'elles ne soient pas conduites aux cours, aux examens, aux diplômes, aux distributions qui préparent les hommes à la vie publique. L'enseignement secondaire des jeunes filles est demeuré généralement religieux et la famille, si ébranlée, doit à cet enseignement ce qui lui reste de pureté. Je demande qu'on ne forme pas pour l'avenir des femmes libres penseurs.
C'est Michel Duchossois qui lisait ce texte de Monseigneur Dupanloup en 1867 avec ce mot « libre penseur » au masculin, bien sûr, on est en 1867 et puis c'est Monseigneur Dupanloup. Il y a une crainte de voir des femmes accéder à l'université.
Alors, la crainte est surtout, au-delà du chahut que pourrait représenter leur présence sur les bancs de l'université, la crainte est surtout l'après-université. C'est que si on entre à l'université, c'est bien pour obtenir normalement un diplôme et donc après embrasser une profession intellectuelle. Et là, on est en train de toucher vraiment à la représentation qu'on peut avoir du rôle des femmes. Et autant on va progressivement accepter qu'elles viennent étudier, autant il va y avoir encore des batailles ensuite pour accéder aux professions. Donc finalement, alors on a parlé des premières batailles en amont sur le secondaire, mais il va y avoir l'entrée, et puis encore l'entrée dans les professions qui est difficile. Et c'est surtout cette représentation-là, en fait, qui va être nécessaire de faire basculer pour permettre une pérennisation, en fait, de l'accès des femmes aux universités.
On peut s'arrêter une seconde sur l'histoire des bourses dans l'émission Un pécule pour l'étude, dans les pas des élèves boursiers, hein. Dans le cours de l'histoire, à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France, l'historien Jean Le Billon nous expliquait ce système des bourses. Les femmes peuvent bénéficier de bourses, mais avec tout ce que vous nous dites, Marie-Élise Hunyadi, elles ne servent pas à grand-chose, ces bourses, sinon à avoir une formation, mais le système est tel que c'est seul, en fait, qu'elles peuvent espérer avant que tout cela soit ouvert, vous l'avez dit, 1880 et la loi Camille C, qu'elles peuvent espérer accéder à l'université. Il y a des questions ici de volonté incroyable et puis de possibilité, parce que faut pouvoir soutenir ses études.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que, on va peut-être un peu loin sur déjà le profil sociologique des premières étudiantes qui, en fait, effectivement, sont pas des étudiantes des milieux très populaires puisque les coûts sont trop importants. En même temps, on voit bien que les premières étudiantes ont souvent des profils particuliers avec, par exemple, si on prend une des premières étudiantes en médecine, Madeleine Bress, qui est veuve avec trois enfants, donc il y a cette volonté aussi de pouvoir supporter sa famille dans un contexte comme ça de veuvage. Si on reprend l'exemple de Julie-Victoire Daubier, elle est aussi très entourée dans les milieux saint-simoniens qui lui permettent aussi d'avoir des entrées un petit peu dans ces milieux intellectuels. On est vraiment sur des femmes qui ont une volonté très importante et c'est certainement une des caractéristiques des pionnières.
Oui, et puis parmi ces pionnières, il y a beaucoup de femmes venues de l'étranger. On le voit bien dans ce panorama des étudiants et des étudiantes, l'attrait que peuvent avoir les universités françaises pour des personnes venues de pays où il n'y a pas d'université accessible ou pas d'université du tout.
Alors effectivement, jusqu'à la Première Guerre mondiale, la moitié des étudiantes à peu près en France sont des étrangères, même plus de la moitié. Il y a notamment beaucoup de femmes d'Europe de l'Est, de l'Empire russe, qui viennent faire leurs études en France. C'est le cas parce qu'en fait, elles ont un système d'éducation secondaire qui est assez développé en Russie. Et alors que les universités russes sont les premières à accepter des femmes en Europe en 1859, ils font vite machine arrière, en fait, parce qu'il y a des agitations politiques et du coup, ils font machine arrière, ils referment, ou en tout cas, ils limitent avec des numerus clausus, qui font qu'il y a un déséquilibre entre un taux de diplômés du secondaire important, qui aimeraient continuer leurs études et qui ne peuvent pas parce qu'ils sont limités dans leur propre pays. Et en fait, elles vont être nombreuses à émigrer soit en Suisse, soit en France, qui sont des pays qui vont les accueillir plutôt bien. En Suisse, parce que l'offre universitaire est particulièrement développée au regard de la population suisse. Et donc, en fait, ils sont assez contents d'avoir des étudiants en plus, même si ce sont des femmes. Et puis en France, en fait, leur présence va être davantage acceptée déjà parce qu'elles n'ont pas le problème du diplôme, puisqu'elles n'ont pas à avoir le baccalauréat, et elles arrivent plus facilement que les Françaises, en fait, à avoir des équivalences de diplôme. C'est-à-dire qu'en France, on ne peut pas avoir une équivalence de diplôme entre le baccalauréat et le diplôme de fin d'études secondaires, mais le diplôme de fin d'études secondaires dans d'autres pays peut être plus facilement accordé en fait comme une équivalence du baccalauréat. Donc de fait, c'est presque plus facile pour les étrangères au départ de pouvoir accéder sur les bancs de l'université française.
Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous parlons de ces femmes qui s'imposent à l'université avec une réflexion sur l'organisation pour faciliter. C'est pas facile pour les femmes, on l'entend bien. Elles viennent de l'étranger. Vous nous l'avez dit, pour le baccalauréat, en tout cas, jusqu'à ce qu'il soit accessible aux femmes, elles travaillent seules. On est vraiment sur des parcours très individuels, j'ai l'impression, dans ces premiers temps des pionnières de l'université.
Alors, oui, en tout cas, dans les profils, dans les parcours, dans les luttes. Néanmoins, à partir du moment où elle commence à être une petite poignée, il y a une vraie solidarité qui semble se mettre en place, notamment pour ces communautés étrangères. Ça, Amélie Puch l'a bien documenté dans son travail de thèse, le fait que il y a une vraie solidarité entre étudiantes russes, par exemple, qui parfois logent ensemble, travaillent ensemble, cuisinent ensemble, pour diminuer les coûts aussi liés à la vie étudiante, et puis pour se soutenir quand on est seule, dans un pays étranger, avec encore toutes les réticences qu'il pouvait y avoir à l'université sur leur présence.
Le travail d'Amélie Puch s'intitule « Les femmes à la conquête de l'université 1870-1840 ». C'est, vous l'avez dit, issu de son travail de thèse, parce que on l'entend bien qu'il y a ici, et ça fait maintenant un petit moment, que le regard se porte sur ces femmes à l'université. C'est un champ de l'historiographie qui est très très vif, et on le voit bien, c'est pas uniquement une histoire du genre, c'est aussi une histoire du système scolaire, de voir en fait comment se créent des ouvertures, mais aussi et beaucoup de fermetures. Vous le vivez ainsi dans votre travail ?
C'est vrai qu'on est toujours en train d'analyser. Enfin, c'est ce qui est intéressant avec l'université, c'est qu'on est à la fois sur le secondaire, sur les professions. Il y avait des recherches aussi pionnières comme celle de Juliette Rennes sur les professions intellectuelles, sur l'accès des femmes aux professions intellectuelles, qui donnaient déjà quelques pistes de réflexion sur l'accès des femmes à l'université. Et ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble en fait du phénomène. Et c'est vrai que on est dans un système encore aujourd'hui où la question de la place des femmes à l'université est sans cesse débattue en fait, avec notamment une différence de proportion du taux d'étudiants dans les différentes filières qu'on retrouve hein, historiquement. On pourra y revenir. Et de fait, c'est vrai que c'est une thématique qui intrigue encore beaucoup parce que ça a des échos aujourd'hui, ne serait-ce également dans les carrières universitaires, où on sait bien que plus on monte, plus le plafond de verre est fort pour les femmes, alors même qu'il y a plus d'étudiantes que d'étudiants.
Marie-Élise Ugnadi, vous voulez dire qu'il y a certaines filières qui sont plus féminines que d'autres. C'est le schéma classique, les sciences, c'est masculin, et les lettres, c'est plutôt féminin.
Alors, effectivement, pour les lettres, en tout cas, c'est la discipline qui va se féminiser le plus rapidement dès les toutes premières en fait décennies. Si je reprends les chiffres, on est déjà sur 32% de femmes dans les universités de lettres en 1910. Donc, ce qui est quand même très important, sachant que sur le total des étudiants, on est sur 5%, 10% maximum d'étudiantes sur le total des étudiants. Donc, c'est vraiment une université qui se féminise très vite. Avant la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, elles sont déjà 60% quasiment. Donc, clairement, c'est celle qui est qui va être le plus féminisée. Tout simplement parce que c'est une faculté à la fois qu'on voit au départ comme pouvant apporter une culture générale sans forcément former à un métier. Et c'est vrai que ça va être un argument qui va permettre l'entrée des femmes à l'université parce qu'elles représentent moins un danger dans le monde du travail. Et puis, c'est aussi une faculté qui a des débouchés dans l'enseignement. Ça peut préparer au concours d'enseignement. Une autre voie que l'École normale supérieure de Sèvres, qui prépare vraiment directement aux agrégations. Mais par exemple, les agrégations de langue ne sont pas préparées, qui sont des agrégations mixtes, ne sont pas préparées à l'ENS de Sèvres. Et donc, de fait, on a pas mal d'étudiantes qui viennent dans les facultés de lettres pour obtenir ces diplômes-là. Et l'enseignement est vu comme un peu la continuité du rôle de mère, en fait. Donc, c'est encore un espace professionnel qui est accepté pour les femmes.
Et puis tout cela, c'est à l'image du regard porté dans la société sur toutes ces femmes. Étudier l'accès des femmes à l'université, là je reprends le titre de votre ouvrage, c'est aussi regarder la place des femmes dans la société. Comment on les observe, comment on se méfie d'aller. Depuis que vous parlez, on saisit combien ici, oui, elles peuvent y aller à l'université, mais ça pose problème, quoi.
Mais ça pose problème. Et effectivement, une deuxième faculté qui se féminise assez vite, pas autant que les lettres, c'est la médecine. Alors, ça pose plus de problèmes que les lettres parce qu'il y a cette concurrence sur le marché du travail ensuite, qui se pose un peu moins, de manière un peu moins forte pour les étrangères, parce qu'on a la représentation qu'elles vont repartir dans leur pays pour exercer le métier ensuite. Il y a des recherches récentes de Juliette Louvenji qui nous montrent que finalement, il y a quand même un tiers qui reste en France, mais bon, la représentation porte plutôt sur le fait qu'elles repartent. Donc la médecine, au départ, est assez réticente quand même à accepter les étudiantes. Mais en même temps, on voit déjà plus la filiation avec les rôles typiquement féminins, les rôles sociaux, de soins à l'autre. On se dit qu'elles vont pouvoir soigner les femmes, soigner les enfants. C'est comme des spécialités qui vont s'ouvrir un peu plus vite aux femmes. Et donc, c'est vrai que c'est une faculté qui va, par exemple, s'ouvrir assez vite, puisque à la fin des années 30, elles sont 26% à peu près à être parmi les étudiants.
Et oui, on est parti de 3, 4, 5%, c'est ça. Et puis, au début du XXe siècle, on voit quand même qu'il y a une vraie progression. On va demander son avis à un psychologue de 1966, le docteur Bertolus.
les hommes sont quand même pas bâtis tout à fait comme les femmes. C'est sûr, mais est-ce qu'à partir de là, on peut vraiment penser que sont attachés à cette différenciation anatomique des différences psychologiques, des différences de caractère qui sont celles que nous leur accordons habituellement, c'est-à-dire la douceur, l'intuition, la sensibilité, la finesse, la rêverie pour les femmes et pour l'homme, la force, le jugement, la logique, la responsabilité, etc. Est-ce que ça, ce ne sont pas un petit peu, si vous voulez, des images auxquelles nous nous raccrochons parce qu'elles nous sécurisent, mais est-ce qu'elles représentent vraiment une différence de nature, si vous voulez, si fondamentale et si définitive qu'on le dit ? Eh bien, probablement pas. Et il semble bien, en effet, que tout cela soit contingent. Mais, d'un autre côté, il ne suffit pas de dire les hommes et les femmes, finalement, on ne sait pas très bien ce qui les distingue au point de vue caractère, ils peuvent tous faire la même chose. Au point de vue éducatif, ils ont tous les deux un rôle à tenir et il ne faut pas tellement majorer le rôle de la femme car le rôle de l'homme dans l'éducation est aussi important. Mais il n'empêche que tout n'est pas résolu quand on dit qu'une fille peut faire les mêmes études qu'un garçon, car on voit que beaucoup de filles qui reçoivent une instruction très poussée ont quelquefois du mal à concilier cette affirmation intellectuelle et la réalisation de leur féminité.
C'est toute la question ici qui est posée, des obstacles qui existent, mais bien au-delà des obstacles qui n'existent pas, qui seraient des obstacles légaux, qui interdiraient aux femmes d'aller à l'université. Ces obstacles-là, légaux, n'existent pas. Ces obstacles sont autres, c'est ce qui est évoqué là. C'est très difficile aussi, et vous avez, en travaillant, étudié ces parcours individuels, et on voit combien il a fallu lutter pour ces femmes pour pouvoir aller à l'université.
Effectivement, la grande... Finalement, le grand frein, c'est les représentations qu'on a de la nature féminine. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure sur le rôle social des femmes à la maison, mais il y a aussi tout ce qui va être leur nature intellectuelle, le caractère plus émotif qu'elles peuvent avoir et qui nuirait, par exemple, à l'abstraction, à des études, comme vous disiez, plus scientifiques. Ça, c'est vrai que ce sont des freins qui sont importants et qui sont très mobilisés dans les premiers temps. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'il va y avoir cette rhétorique un peu des femmes elles-mêmes de montrer qu'elles sont capables, en fait. On est vraiment sur cette logique de la preuve. On va montrer qu'on est capable d'étudier aussi bien que les hommes, qu'on est capable de réussir dans les professions aussi bien que les hommes, pour déconstruire finalement tous ces préjugés qui pouvaient exister donc sur leur rôle dans la société, mais aussi sur leur capacité d'apprentissage, sur leur différence d'intelligence qui était supposé.
Avec ici ce regard que vous portez, Marie-Élise Uniadi, dans l'accès des femmes aux études universitaires, l'engagement de la Fédération internationale des femmes diplômées des universités, vous l'avez publié aux presses universitaires de Rennes. Je le dis, il est en accès libre sur Open Edition, comme ça c'est formidable parce qu'on peut le consulter très facilement. Et ce regard comparé que vous avez déjà cité différents cas d'autres pays, par exemple la Russie, est-ce que l'on assiste à des parcours différents ou à une ouverture plus grande de certaines universités? Parce que quand on parle en français, on se projette bien souvent sur l'exemple français, mais il y en a d'autres.
Oui, tout à fait. L'ouverture se fait quand même globalement dans les pays occidentaux à peu près à la même époque. En Europe, en tout cas, on est quand même une ouverture dans les mêmes dates, dans les années 70 notamment, en Hollande, en Finlande, en Suède. Ça va être un peu plus tard pour le Portugal, l'Autriche et l'Allemagne qui n'ouvrent qu'en 1900. C'est vrai qu'on est plus loin que ce qu'on a pu voir pour la France ou pour la Suisse. Mais on reste quand même sur une ouverture un peu qui se fait un peu de la même manière, c'est-à-dire avec des pionnières qui entrent, qui déjouent un petit peu ce qu'on disait sur les non-dits législatifs et qui arrivent à entrer par cette voie-là. La situation, en revanche, est très différente dans les pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, puisqu'on n'a pas cette situation de mixité qu'on peut avoir, ou beaucoup moins, en fait, cette situation de mixité qu'on peut avoir en France, par exemple. Et on va créer des établissements spécifiques, en fait, des établissements d'enseignement supérieur spécifiques pour les femmes, les fameux Women's College. Et ça, cette création d'établissements supérieurs pour les femmes, elle a lieu un peu plus tôt, en fait, aux États-Unis. États-Unis, on en a des les années 1830. En Grande-Bretagne, c'est en 1849, il y a la création de Bedford College. Et en fait, de fait, ça va être, ça va faire en sorte que le passage par l'université, et notamment pour aux États-Unis, apparaît plus comme un palier normal de la scolarité des filles. De nombreuses filles, alors des milieux plutôt favorisés, bien entendu, vont passer dans les Women's College. Mais aux États-Unis, avec un niveau d'enseignement qui est plutôt inférieur à ce qu'on peut voir en Europe. Et ça, ça va être aussi une lutte des Américaines d'essayer d'augmenter le niveau de leurs propres établissements, puisque notamment, il y a très peu de recherche en fait dans ces établissements-là.
Mais oui, parce que effectivement, en Europe, en France, pas de mixité dans l'enseignement secondaire, mais une mixité à l'université. Alors que dans le monde anglo-saxon, il y a des universités pour femmes. C'est une différence majeure quand même dans cette histoire-là. La mixité pour les universités françaises, c'est d'ailleurs toujours étonnant de se dire la mixité est possible avec tous les problèmes, au sens les fantasmes, que cela provoque.
Tout à fait, et d'autant plus que c'est vraiment un vrai paradoxe entre une volonté de stricte séparation de l'enseignement secondaire. On n'est pas trop revenu sur la loi de 1924, sur le décret Bérard qui unifie les programmes de filles et de garçons pour permettre aux filles d'avoir les mêmes enseignements que dans les lycées de garçons et passer le baccalauréat. Mais en fait, une des grandes raisons de cette loi, c'est que sous la pression de ces filles qui veulent passer le baccalauréat, il y en a pas mal qui vont étudier dans les lycées de garçons, qui demandent des dérogations pour être étudiés dans les lycées de garçons pour obtenir le baccalauréat. Et cette situation de mixité, elle dérange à cette époque encore, dans l'entre-deux-guerres. Et de fait, c'est pour ça qu'on finit par leur laisser la possibilité d'obtenir la même formation, mais toujours dans leurs établissements d'enseignement féminin. Il faut attendre seulement la massification dans les années 1960 et la généralisation de la mixité à tous les degrés d'enseignement avec la loi Abi et les décrets d'application de la loi Abi en 1976. Donc on est sur un paradoxe parce qu'on cherche vraiment à séparer filles-garçons dans le secondaire, et à l'université, la question se pose peu. En France, il y a quelques établissements d'enseignement supérieur qui sont créés. Il y a l'ENS de Sèvres qui est quand même le plus représentatif parce qu'il est vraiment dans cette logique de pouvoir apporter un corps de femmes enseignantes qui vont venir enseigner dans les établissements féminins.
L'école normale supérieure, oui.
Voilà. Il y a par contre quelques créations d'écoles, par exemple le HEC Jeunes Filles qui est créé dans l'entre-deux-guerres, ou l'école polytechnique féminine. Qui est créé aussi dans l'entre-deux-guerres, mais en fait c'est peu d'établissements et la plupart des étudiantes vont vraiment dans l'université masculine.
Oui, c'est ça. Hein, elles sont mêlées avec ces garçons, mais en minorité. C'est aussi important. Alors, c'est très différent selon les filières, avec le regard porté sur cette histoire, ce constat même social à ce moment-là. Lecture de magazine 1932.
Nous constatons que le nombre va croissant des jeunes filles qui font des études d'hommes, conduisant à des emplois d'hommes, ou tout au moins considérées comme telles. Elles y sont poussées, soit par une vocation intellectuelle, soit par les conditions économiques de la vie contemporaine, et par le désir d'acquérir des moyens d'existence propres, le mariage étant, principalement depuis la guerre, une ressource sur quoi il est audacieux de trop compter. Le résultat est-il favorable au sexe féminin ? Monsieur le sénateur Duplantier a cru pouvoir répondre par la négative lors de la discussion d'une proposition de loi sur l'accession des femmes aux professions de notaire et d'avoué. Le niveau des études, proclama-t-il, a sensiblement fléchi depuis qu'elles ont été envahies par les étudiantes. Jugement aventuré qu'il est permis de ne pas accepter sans examen.
Raphaël Halloum qui lisait dans le cours de l'histoire sur France Culture le magazine Lecture pour tous, cette revue universelle et populaire illustrée 1932, donc avec, et c'est évoqué ici, mais le journaliste prend du recul la crainte que la présence de femmes à l'université fasse baisser cet objet de maçon qui est un niveau. Ça doit faire baisser le niveau.
Tout à fait. Comme on le dit aussi dans les professions, hein, dès qu'une profession se féminise, elle se dévalorise. Là, c'était un peu le même concept, c'est-à-dire que avec plus de femmes à l'université, le niveau baisserait. Et c'est vrai que dans cet article, l'objectif était d'aller enquêter auprès des doyens d'université pour vérifier si ça se concrétisait vraiment dans leur faculté. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette représentation que les femmes peuvent moins bien apprendre à une intelligence plus faible que les hommes, donc vont forcément faire baisser le niveau.
D'ailleurs, on peut évoquer le cas de Marie Curie, parce que Marie Curie, c'est une grande figure de cette histoire-là, mais par cette grande figure, elle invisibilise beaucoup d'autres femmes à l'université. Le parcours de Marie Curie, et qui a été très très critiquée, en fait, est présentée comme une figure d'exception et ne met pas en évidence toutes ces femmes qui, elles, entrent à l'université, pas pour avoir un prix Nobel, pour avoir une formation et un métier par la suite.
Oui, alors c'est vrai que l'exemple de Marie Curie est sans cesse brandi par les étudiantes, enfin par les associations féministes aussi en fait, hein, parce que elle arrive à croiser tous les aspects de la vie d'une femme en fait. C'est ça qui est intéressant aussi dans l'exemple de Marie Curie. Donc il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, elle vient de l'Empire russe, elle arrive en France, c'est compliqué au départ financièrement. Elle prend donc ses études. C'est des études de chimie, de physique. Elle obtient le prix Nobel avec son mari. Et puis surtout, ce qui est impressionnant dans son parcours, mais qui est lié finalement à la fatalité du décès de son mari, elle réussit à prendre sa chaire, à récupérer la chaire de son mari, Pierre Curie, en 1906. Et c'est donc la première femme à obtenir une chaire universitaire. Mais souvent, elle est valorisée aussi parce qu'elle a eu des enfants, parce qu'elle a réussi en fait à concilier son rôle de mère avec ce dévouement à la science et à l'université. Et ça, c'est quelque chose qui faisait très peur en fait dans les représentations dont on a parlé tout à l'heure. C'était de se dire quand des femmes entrent à l'université, c'est peut-être qu'elles vont renoncer à leur rôle de mère, à leur rôle d'épouse. Et il y a toute une littérature, notamment portée par les romans de Colette Hyvert, qui vont, mais donc on retrouve aussi dans d'autres articles de journaux ou dans la presse ou dans d'autres romans, sur le fait que finalement ces bas bleus, ces femmes très éduquées, elles délaissent leur mari, elles délaissent leurs enfants, et dans les pires des cas, ça conduit au décès des enfants, au suicide des femmes, etc.
Donc. Oui, et puis dans le cas de Marie Curie qui vient effectivement de la Pologne sous domination russe à ce moment-là, tout se croise, hein. C'est la place de la femme dans la société, enfin qui doit s'occuper de ses enfants et qui y arrive, et dans le même temps la réussite universitaire, la reconnaissance internationale et tout cette réflexion autour de l'idée, mais c'est aussi une étrangère. Marie Curie, elle est au carrefour de plein de soucis de la société de ces années-là. Mais les femmes à l'université, c'est ce que nous disions un peu, leur ambition, ce n'est pas uniquement ça, c'est pas de prendre tous les postes et d'être prix Nobel, c'est aussi juste avoir des métiers. Donc ça, c'est le défi suivant, l'obstacle suivant, c'est avoir un métier. La formation des femmes à l'université est-elle reconnue ?
Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début, mais en fait, même si le taux d'étudiantes augmente assez régulièrement, on va dire, le taux de diplômés augmente différemment, en fait. C'est-à-dire que, notamment dans les premières étudiantes, il y en a très peu qui obtiennent des diplômes, en fait. On est sur des taux, au début du siècle, enfin jusqu'à la Première Guerre mondiale, de plutôt 4% des inscrites en lettres, par exemple, qui vont obtenir leur licence. Ou pareil, en médecine, que 4% qui vont obtenir leur doctorat. Il y a un peu plus de diplômés en sciences et en droit, où elles sont plutôt de l'ordre de 15%. Mais en fait, il y a quand même encore beaucoup d'abandons en cours d'études, souvent parce qu'elles se marient. Quand elles se marient, bon, on le sait, à partir du moment où elles ont des enfants, c'est plus compliqué de poursuivre ces études. Et puis, elles ont besoin de l'autorisation de leur mari pour s'inscrire. Donc, ça peut être aussi un frein. Il y a aussi un certain nombre qui cherchaient surtout de la culture générale et pas forcément un métier derrière, ou plutôt une perspective qui permettrait éventuellement d'obtenir un emploi s'il y a un revers de fortune ou s'il n'y a pas de mariage. On l'a entendu un petit peu tout à l'heure dans un extrait. Il y a cette crainte que potentiellement le mariage soit plus compliqué à cette époque. Et donc, on veut assurer ses arrières, en fait. Et certaines ne prennent que quelques certificats et sans arriver vraiment jusqu'au diplôme.
Oui, parce qu'une fois que le diplôme est obtenu, et on entend bien ici hein, tous les obstacles qu'il faut surmonter pour arriver au diplôme, après il faut être recruté, et là aussi c'est difficile. Élément d'analyse avec Anne Nègre, qui est avocate, c'est l'autrice d'un ouvrage hein, sur les suffragettes, enfin sur l'idée de ce combat militant.
C'est plus simple de travailler avec un homme quand on est un homme. On a les mêmes références, c'est plus facile. On s'appuie sur quelqu'un qui vous rendra l'appareil. Les femmes, c'est encore des ovnis. On ne sait pas comment les maîtriser, on ne sait pas comment obtenir leur fidélité. En tous les cas, c'est un monde de non-dits, etc. Et c'est pour ça que l'éducation, au primaire, pour lutter contre les stéréotypes, les livres scolaires, au lieu de lutter contre, les renforcent. Mm-hmm. Il faut apprendre aux uns et aux autres, comme moi j'ai appris par l'expérience, à visualiser tout ça. Oui. Et quand vous visibilisez quelque chose, vous le rendez visible, oui. Il existe. Vous le déterminez et vous pouvez, alors à ce moment-là, commencer à le combattre. Alors, et donc, dans les entreprises, c'est ce qu'il faut faire. C'est faire des groupes de parole, des groupes. Pourquoi ça bloque? Et les garçons se mettent à la place des filles, les filles à la place des garçons, et ils comprennent les situations réciproques.
Et ben voilà, il faut faire des groupes. Il faut discuter, il faut s'organiser. Marie-Élise Uniadi, dans cette idée d'organisation des femmes à l'université, vous avez particulièrement étudié la Fédération internationale des femmes diplômées des universités. Qu'est-ce donc que cette fédération ?
Alors, cette fédération, elle est créée après la Première Guerre mondiale, voilà, sortir vraiment de la Grande Guerre, par des diplômés britanniques et américaines qui, en fait, se propose de créer une association de femmes diplômées pour promouvoir la paix. Leur première idée, en fait, c'est vraiment de promouvoir la paix. On est vraiment sur cette thématique de plus jamais ça. Et en fait, elles considèrent qu'en tant que diplômées des universités, elles ont une responsabilité sociale importante à jouer. Et qu'en fait, leur diplôme, c'est pas juste un privilège, c'est aussi quelque chose qui les engage, en fait, envers la société. Et de fait, elles se disent que peut-être le fait d'organiser une association internationale de femmes diplômées des universités, ça va permettre de tisser des liens entre les femmes éduquées qui vont donc tisser des liens internationaux, approfondir la compréhension internationale et donc favoriser l'amitié en fait entre femmes diplômées qui va ensuite essaimer dans leurs différents pays et permettre de favoriser la paix. Donc ça, c'est leur première idée. Donc c'est vraiment le pacifisme au départ qui est à la base de leur association. Et en fait, elles disent très vite, bon, si on commence à parler de pacifisme, ça va pas fonctionner, on va toutes se disputer et ça va pas marcher. Donc, plutôt que de vraiment parler, traiter de cette notion de pacifisme, c'est plutôt en toile de fond qu'on la voit, et elles vont davantage orienter leurs actions sur on travaille ensemble pour promouvoir la place des femmes à l'université et dans les professions à responsabilité, en fait. Leur objectif, c'est de pouvoir peser dans la vie publique. Et donc, pour obtenir des postes à responsabilité, elles partent du principe qu'il va falloir continuer à développer l'éducation des femmes et surtout leur permettre d'accéder aux plus hauts diplômes. On en parlait tout à l'heure aux États-Unis, il y a beaucoup de women's college, mais pas forcément beaucoup d'accès au doctorat, à la recherche. Donc ça, c'est par exemple des actions qu'elles vont chercher à mener pour en fait favoriser l'accès des femmes aux plus hauts postes à responsabilité.
Une sorte de groupe de pression, on pourrait l'imaginer comme ça, enfin un lobby, vu que vous étudiez le monde anglo-saxon. C'est un peu ça, on sent qu'il y a plusieurs actions possibles hein, à toutes les étapes, pendant et après les études. Mais c'est faire de toutes les manières possibles une place aux femmes dans la société. À l'université, c'est une chose, mais aussi dans la société, ça s'organise comment, une chose pareille ?
Alors leur association, en fait, c'est vraiment une association internationale, enfin une fédération internationale, c'est-à-dire que donc il existait déjà une association de diplômés aux États-Unis, une association de diplômés en Grande-Bretagne, et elle décide en fait de faire en sorte que dans la fédération, une seule association par pays puisse adhérer. Donc parfois, il existe déjà des associations qui viennent adhérer à la fédération. Parfois, et dans la plupart des cas, il va falloir créer cette association. Donc, c'est le cas en France où, en fait, il n'existait pas d'association de diplômés. Il existait quelques associations d'étudiantes. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il existait des associations d'étudiantes, des associations générales d'étudiantes qui vont, à partir de 1925, plutôt être regroupées dans les associations générales d'étudiants. Mais il n'y avait pas d'association de diplômés et l'entre-deux-guerres, c'est vraiment le développement de ces associations professionnelles. Donc en France, c'est l'association des Françaises diplômées des universités, l'AFDU. On a d'autres groupements professionnels en France, hein, comme l'association des femmes médecins, des femmes juristes, la société des agrégés aussi. Donc c'est vraiment un moment aussi où se développe parallèlement d'autres associations qui, en fait, sont souvent reliées aussi à la fédération, hein, qui est ici à l'association française. Donc, on est sur une fédération d'associations nationales, qui est quand même très européenne, enfin, très occidentale, on va dire, au moment de la création, puisque le développement dans les pays non occidentaux de l'université pour les femmes est très faible. Donc, il n'y a pas encore assez de vivier de femmes pour construire des associations dans ces pays-là. Et puis donc à partir de cette organisation qui va vraiment se structurer avec des congrès réguliers, des comités de travail, etc., ils vont vite axer sur des pôles d'action en fait très spécifiques, notamment donc des bourses, des foyers, des actions plus locales en termes d'orientation professionnelle, par exemple. Et puis, ce qui a eu pas mal de poids aussi dans mon travail, c'est tout ce qu'elles vont faire comme lobby, vous en parliez, dans les organisations internationales, SDN, puis UNESCO, après la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, parce que cette fédération dont nous parlons est créée en 1919. En 1919, nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale, et c'est au moment où est créée la SDN, la Société des Nations. Alors, vous parliez de pacifisme, enfin, œuvrer en faveur de la paix, on est obligé de faire le lien. On se dit, c'est un moment où, après l'horreur de la guerre, partout, il y a la volonté de faire avancer les choses. En tout cas, que ça ne se reproduise plus. Alors, une fédération des femmes diplômées, c'est ça. Et puis, on entend bien dans ce que vous expliquez, ça glisse tout doucement vers une idée autour des femmes à l'université. Mais les liens existent entre cette fédération des femmes diplômées des universités et la Société des Nations ?
Oui, tout à fait. C'est une partie importante, en fait, de leurs actions. Comme vous le disiez, elle voit la SDN comme un avenir incroyable, puisque c'est très proche, finalement, de leurs propres idéaux. Et elles vont tout faire, en fait, pour pouvoir être associées aux travaux de la SDN et notamment de l'Institut international de coopération intellectuelle, qui est un peu plus, enfin voilà, une sous-catégorie de la SDN, qui travaille plus particulièrement sur la coopération internationale et la coopération intellectuelle, et dans lequel elles arrivent en fait à obtenir une reconnaissance en tant que diplômée et en tant qu'universitaire. Et ça, c'est très important pour elles dans l'entre-deux-guerres. La priorité à ce moment-là, c'est plus de se faire voir comme des universitaires et des intellectuels que comme des femmes. Alors, elles vont glisser des revendications pour qu'on n'oublie pas les femmes au fur et à mesure, mais elles ne veulent surtout pas qu'on les voit comme des féministes qui vont venir brandir la cause des femmes sans cesse, parce qu'elles ont peur que ça nuise, en fait, à leur image et à leurs actions. Donc, elles vont plutôt être dans la perspective de montrer leur expertise sur les échanges internationaux, sur les bourses, justement, on y reviendra sûrement après, et c'est ça qu'elles valorisent auprès de la SDN pour vraiment montrer en fait qu'elles ont du poids et qu'elles ont pris de la place en fait dans les universités.
Qu'est-ce qu'il en est pour les bourses ?
Alors en fait, les bourses, c'est vraiment l'action qui met tout le monde d'accord, qui redonne le sourire, si j'ai une citation là-dessus, qui met tout le monde d'accord, parce qu'en fait, elles se rendent compte qu'il y a peu de bourses qui sont ouvertes aux femmes pour faire des études super vraiment approfondies, et même de la recherche en fait. C'est-à-dire qu'il y a des bourses de licence, des bourses pour les études, pour la licence notamment, pour les premiers cycles, mais par contre pour tout ce qui et après, il y a des bourses plus pour les hommes que pour les femmes. Et donc, elles vont essayer de mettre en place un programme de bourse pour financer des chercheurs ou des étudiantes qui veulent faire des études avancées et qui vont pouvoir approfondir leur dossier académique et scientifique pour ensuite pouvoir prétendre à des postes universitaires, des postes de recherche ou des postes à responsabilité dans lesquels elles pourront valoriser ces diplômes-là. Donc c'est vraiment une grande, c'est assez restreint en termes de nombre de bourses quand on considère le nombre total. Elles en financent moins de 300, donc c'est pas énorme. Mais il faut bien imaginer que c'est du financement uniquement qui repose uniquement sur les cotisations des membres en fait. C'est ou les cotisations des membres ou des donations, mais c'est vraiment elles qui trouvent les fonds. Alors l'association américaine là-dessus a pas mal d'avance et c'est celle qui finance le plus. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez novateur à l'époque puisqu'il y a peu de bourses qui sont décernées aux femmes. Et puis ce sont des bourses aussi pour aller étudier à l'étranger. Donc il y a cette première volonté aussi d'internationalisation des dossiers scientifiques, etc., qui va quand même dans la logique de ce qu'on a vu sur l'accès des femmes à l'université, puisque souvent elles étaient obligées de migrer pour aller chercher les diplômes qu'on leur refusait dans leur pays. Mais là, c'est un peu le même principe, c'est d'aller chercher les meilleurs spécialistes de leur discipline dans d'autres pays et de pouvoir approfondir leur dossier scientifique.
Dans cette histoire comparée, on l'a bien compris, il y a une différence entre le système anglo-saxon avec des universités pour les femmes, et puis le système qui existe en Europe, en France particulièrement, où l'université est mixte. Dans l'étude de cette Fédération internationale des femmes diplômées des universités, est-ce qu'on a un mouvement qui est plutôt porté par le modèle anglo-saxon, pour le dire autrement, qui fonde cette université? Ça vient du monde anglo-saxon ou ça vient plutôt de chez nous?
Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un modèle d'université. Je pense que le monde américain, enfin les États-Uniennes là notamment, on apprécie et admire en fait le modèle européen parce que elles estiment qu'il est, enfin même les fondatrices et les dirigeantes le reconnaissent, hein, qu'elles pensent que l'enseignement en Europe est plus poussé à l'université que dans les women's colleges américains. Néanmoins, clairement, ça va être elles qui vont avoir la domination sur la fédération parce que en termes de nombre d'adhérentes, elles vont être beaucoup plus nombreuses que les européennes, par exemple, puisqu'en fait, elles sont très nombreuses à aller dans les women's colleges. On l'a dit tout à l'heure, hein, ça fait partie en fait du cursus de base des femmes de certains milieux sociaux favorisés ou des classes moyennes. Et en fait, comme c'est c'est pas forcément un parcours universitaire qui débouche ensuite sur un métier. Elles sont beaucoup à être femmes au foyer en fait ensuite, mais très impliquées dans ces associations. La présidente de l'association, Virginia Gildersleeve, elle parle de community women en fait aux États-Unis, c'est-à-dire des femmes qui sont impliquées pour leur communauté. Il y a une tradition philanthropique qui est beaucoup plus importante en fait que en Europe. Ou que, par exemple, en France, ce qui fait qu'elles vont peser beaucoup dans la fédération, dans la direction de la fédération, dans le poids des décisions. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est leur modèle qui est imposé dans les vues de la fédération.
Bah des modèles, il y en a. Par contre, c'est que puisqu'il y a de plus en plus de femmes à l'université et de femmes qui réussissent, ce ne sont plus des grandes figures de pionnières uniquement, ce sont autant de modèles qui inspirent les jeunes filles évidemment rangées.
Ce qui m'aurait plu, ça aurait été de continuer mes études de philosophie. J'avais lu dans une revue un article sur une femme philosophe qui s'appelait Mademoiselle Zanta. Elle avait passé son doctorat, elle était photographiée devant son bureau, le visage grave et reposé. Elle vivait avec une jeune nièce qu'elle avait adoptée. Ainsi avait-elle réussi à concilier sa vie cérébrale avec les exigences de sa sensibilité féminine. Comme j'aurais aimé qu'on écrivît un jour sur moi des choses aussi louangeuses. Les femmes qui avaient alors une agrégation ou un doctorat de philosophie se comptaient sur les doigts de la main. Je souhaitais être une de ces pionnières.
Jeanne Coppet dans le cours de l'histoire sur France Culture qui nous lisait cet extrait des mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir qui est née en 1908, donc pour les études on fait à peu près plus 20 ans, donc nous sommes dans les années 1920. Cette idée de modèle, c'est important aussi, cette volonté d'accéder à l'université parce qu'on se rend compte que c'est possible. C'est aussi ça le travail de la Fédération des femmes diplômées des universités, c'est de diffuser l'information. Il y a les bourses d'un côté, vous nous l'avez expliqué, mais il y a tout ce qui est fait pour dire « allez-y, vous pouvez ».
Tout à fait. Alors ça se fait même à plusieurs niveaux finalement dans la fédération. Le premier niveau, ça va être toutes les premières fondatrices, dirigeantes, toutes celles de l'entre-deux-guerres, en fait, si on résume, puisque ce sont peu des pionnières telles qu'on a vu tout à l'heure avec Madeleine Bress, Victoire Daubier, qui sont les premières à entrer à l'université. Mais par contre, ça reste des pionnières plutôt dans les professions. On va avoir, par exemple, en Suisse, Nelly Schreiber-Favre, qui va être la première avocate de Suisse romande. On va avoir, donc, dans les deux grandes fondatrices, Virginia Gildersleeve et Caroline Spurgeon, ça va être plutôt des premières professeurs d'université. Caroline Spurgeon, c'est la première professeure d'université à Londres, la deuxième en Grande-Bretagne. Virginia Gildersleeve, elle va diriger le Barnard College, qui est l'établissement féminin affilié à Columbia, en fait, l'université Columbia. Donc, elle va diriger ça pendant 36 ans et essayer d'ouvrir des filières qui étaient fermées aux femmes, comme le journalisme, les carrières d'ingénieur, etc., à partir de ce rôle-là. Mais on a, dans toutes les premières dirigeantes, en fait, un membre du bureau, on a en Norvège Christine Bonnevie, la première femme professeure d'université, une biologiste, et puis sa compatriote Hélène Gleditsch, qui elle est radiochimiste, et qui est la deuxième femme professeure d'université. On va avoir aussi en Grande-Bretagne Winifred Cullis, qui est la première femme prof d'une école de médecine. Donc on a vraiment ces pionnières finalement dans l'enseignement supérieur. Anna Mieux en France, qui va être la directrice de l'école normale supérieure de Sèvres, donc qui a aussi quand même une position institutionnelle importante. Et de fait, il va y avoir toute une rhétorique sur ces femmes qui montrent que c'est possible, qui montrent qu'on peut accéder à ces postes-là. Et donc ça, c'est peut-être la première strate qu'on peut voir. Et on a vraiment une diffusion de leur parcours dans les publications de la Fédération pour que ça arrive sur tous les membres, en fait, dans les publications même nationales, avec vraiment, voilà, leurs parcours sont rappelés. Et puis, on va avoir peut-être une deuxième strate qui se fait dans certains cas, à l'échelle plutôt nationale, voire locale, où en fait, des groupements vont faire de la diffusion d'informations sur les carrières, sur les études et sur les pionnières auprès des jeunes filles. Et ça, c'est vrai que c'est une action importante aussi de la Fédération, qui est moins pilotée à l'échelle internationale. C'est plus des actions locales. Mais voilà, ça c'était le cas à Genève, par exemple. C'était le cas en France, en Angleterre, où il y a une diffusion d'informations sur les carrières et sur les pionnières qui est importante dans cette volonté d'avoir des modèles d'identification, en fait, pour les filles qui puissent se dire que ce sont des carrières qui leur sont ouvertes, en fait.
Oui, c'est fondamental de se dire que c'est possible. Si on a intégré l'idée que c'est pas possible, c'est sûr qu'on n'y arrive pas. Avec pour la Fédération internationale des femmes diplômées des universités, une association avec la Société des Nations, vous nous l'avez dit, mais après la Seconde Guerre mondiale, il n'y a plus de Société des Nations, et donc c'est vers l'UNESCO que cette fédération tourne son regard.
Oui, et là, il y a un point de bascule assez intéressant, puisque autant dans l'entre-deux-guerres, ce qu'elle valorise, c'est plutôt leur expertise d'universitaire, autant après la Seconde Guerre mondiale, est créée en fait la Commission de la condition de la femme au Conseil économique et social des Nations Unies, donc à l'ECOSOC, qui est quelque chose qui, au départ, elle voit plutôt d'un mauvais œil, parce qu'elles ne veulent pas que ce soit traité séparément, en fait, la place des femmes. Et finalement, ce comité va orienter certaines actions de l'UNESCO, parce qu'ils vont commander en fait des rapports à l'UNESCO sur l'éducation des femmes. Et elles vont en fait les dirigeantes de la fédération quand même s'axer sur ces thématiques-là, parce que elles estiment qu'elles sont les plus compétentes pour traiter de l'éducation des femmes, et elles vont vraiment essayer de montrer un féminisme d'expertise, si on reprend les termes de Françoise Thébault, pour montrer en fait qu'elles ont la possibilité de mener des enquêtes dans leurs différents pays, puisqu'elles commencent à être représentées dans pas mal de pays du monde. Et donc, elles mènent des enquêtes sur la situation de l'éducation des filles, et plus qu'à l'université, aussi dans le secondaire, aussi dans le primaire, aussi dans l'enseignement professionnel, pour l'enseignement des femmes, aussi adultes aussi. Donc il y a vraiment une diversification des thématiques. Mais toujours dans cette optique, nous, on fait ça avec nos méthodes universitaires. On fait des vraies études d'éducation comparée, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qui permet, en fait, ce lobbying dont on parlait tout à l'heure, de montrer qu'elles sont toujours présentes et qu'il faut mener des actions pour l'éducation des filles.
Ah ben ça, il faut le mener. Alors, l'éducation des filles, c'est une chose. L'éducation des garçons aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'université, c'est normal. Mais Marie-Élise, il y a les autres écoles, hein, l'école normale supérieure, vous en avez parlé, Polytechnique, vous en avez parlé en 1972, des femmes entrent à l'école Polytechnique. Archie, vous êtes prête? Accrochez-vous, hein. Vous allez voir, ça remue.
Elle a 18 ans, une longue chevelure, un sourire charmant et timide. Non, ce n'est pas la nouvelle Miss Univers, c'est Anne Chopinet, reçue major hier à Polytechnique avec 2246 points. Second, un garçon, et oui, faut-il en être fier? Certainement pas. 15 points de moins que la jeune fille, qui n'a que 18 ans, je vous le rappelle, et qui ne considère pas le service militaire comme essentiel.
Pour moi, c'est pas le principal, le service militaire que je vais faire à l'école. Surtout, si j'ai choisi Polytechnique, c'est à cause des débouchés qu'on a, parce que finalement, on peut faire ce qu'on veut en sortant. Si bien de la recherche ou un métier d'ingénieur.
Êtes-vous frivole?
Frivole, c'est-à-dire?
Est-ce que vous courez les magasins? Est-ce que vous occupez un petit peu de vous? Si ça vous arrive de vous surprendre devant une glace?
Ah oui, bien sûr. Oui, ça m'arrive.
La mode vous intéresse également?
Oui.
Vous vous sentez une jeune fille dans le coup, vraiment?
Ah oui, bien sûr. Moi, je me sens pas anormale parce que j'ai réussi... le concours de Polytechnique.
C'est notre camarade Jean-Paul Sautet de la première chaîne qui interrogeait le nouveau major de Polytechnique.
Nous étions en 1972. Thomas Beau qui réalise l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture avec à la technique Grégory Wallon a intitulé ce son Waouh, sexisme. Parce que 1972. En fait, pour conclure cette émission, nous entendons bien Marie-Élise Ougnadi qu'il y a de plus en plus de possibilités pour les femmes d'aller à l'université, même si ça n'avait jamais été interdit. Mais voilà, tout doucement, ça avance, et il y a des fédérations, il y a des années, il y a quelque chose qui n'avance pas au même rythme, c'est le regard porté sur les femmes dans la société.
Tout à fait, parce que finalement, l'extrait qu'on vient d'entendre, on a le même type de discours dans l'entre-deux-guerres déjà, où là, autant les toutes premières pionnières, on les voyait plutôt comme un nouveau sexe, un peu indéterminé, puisqu'elles devaient être souvent austères. Autant dans l'entre-deux-guerres, il faut arriver à concilier sa féminité avec ses réussites universitaires. Et là, on le remarque bien dans cet extrait. Et c'est vrai que le regard a du mal à bouger, et notamment dans ces professions, là on est quand même sur Polytechnique, les professions d'ingénieurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est quand même une voie qui reste très masculine, très fermée. Et l'Association française des femmes diplômées des universités mène pendant les années 50-60 toute une série d'actions justement pour essayer de promouvoir les femmes dans les carrières d'ingénieurs, en montrant que c'est possible de réussir dans ces carrières, que les femmes ont aussi leur rôle à jouer. Et c'est assez intéressant parce que finalement, elles utilisent aussi une rhétorique sur les capacités typiquement féminines de management, en fait, parce qu'elles savent écouter les autres, parce qu'elles vont pouvoir être plus diplomates, peut-être, pour gérer une équipe, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'elles disent et qu'elles essayent de diffuser dans les années 60. Aussi, le fait que c'est plus facile de coupler avec sa vie personnelle, finalement, parce qu'on a plus d'argent que quand on est enseignante. Oui. Quand on rentre à la maison, on n'a plus de travail. Donc, les représentations continuent en fait à essayer de bouger.
Ouais, oui, les luttes du passé sont les luttes d'aujourd'hui. Merci vivement à vous, hein. Marie-Élise Ougnadi, l'accès des femmes aux études universitaires. Une histoire d'obstacles, en fait.
Une histoire d'obstacles.
Merci beaucoup à vous. Prochain épisode dans le cours de l'histoire de l'Asie à l'Europe, parcours d'étudiants venus des colonies.
L'université d'Hanoï a une existence déjà assez ancienne, au moins en ce qui concerne la faculté de médecine et celle de droit. Bien entendu, l'enseignement y est donné en français. Il est donné en français, même par les professeurs vietnamiens. Ainsi, l'université d'Hanoï peut, dans sa forme actuelle franco-vietnamienne, être à la fois l'organe de formation des techniciens du pays et un instrument précieux d'expansion de la culture française en Extrême-Orient.
Le cours de l'histoire sur France Culture est une émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.